ce soir, nous recevons Rémi Bastien, grand défi et nouvelle piste pour demain, directeur de la recherche des études avancées et des matériaux chez Renault. Rémi Bastien, diplômé de l'ECAM Lyon, est rentré chez Renault en 1982. Je voudrais reprendre juste quatre dates. De 87 à 92, Rémi Bastien était responsable d'une équipe chargée de la mise au point des moteurs 1400 cm3 et V6, mais surtout il a participé à l'élaboration de la Twingo. De 92 à 96, il était responsable de la stratégie de réduction de consommation et de réduction des émissions. C'est la première action forte pour l'environnement, et l'environnement est une des grandes passions de Rémi Bastien. De 2007 à 2008, directeur de la stratégie et des études avancées de l'ingénierie mécanique, directeur adjoint de l'ingénierie mécanique, et il contribuait donc au nouveau moteur, complètement en rupture avec le CO2. Et depuis 2009, il est directeur de la recherche, des études avancées et des matériaux. Je laisse la parole à Rémi.
Merci Franck. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. C'est pour moi un très grand honneur d'intervenir dans ce cadre prestigieux de l'Université de tous les savoirs. Pendant mes trajets matinaux, j'ai souvent écouté avec grand plaisir les conférences données sur France Culture, et j'avoue qu'il m'est arrivé de rester parfois une demi-heure dans ma voiture à l'arrivée pour écouter la fin, tellement j'étais captivé. Alors je n'ai pas la prétention de rivaliser avec les auteurs prestigieux qui se sont succédés à cette tribune, mais je suis vraiment très heureux d'avoir l'opportunité d'évoquer avec vous les grands défis qui attendent un produit qui me passionne depuis mon enfance, l'automobile. Ce produit s'est beaucoup banalisé par sa grande diffusion, mais il a été et il reste un formidable instrument de liberté. Bien avant l'invention de la roue par les Sumériens, il y a 6000 ans, la mobilité faisait partie des aspirations, des besoins fondamentaux de l'humanité. Mon distingué confrère, le docteur Mikulik de Mercedes, fait remarquer que la mobilité des personnes et des biens n'est pas la conséquence, mais bien le fondement de la prospérité. Et en ce sens, dans nos pays industrialisés, l'automobile a longtemps été un médium vital pour la mobilité et donc un atout économique indispensable. Je tenterai de vous montrer les enjeux principaux pour l'automobile de demain, les pistes les plus probables et comment le métier d'ingénieur continuera à trouver dans cette industrie l'opportunité de se dépasser, de mettre toute l'étendue de son talent au service du progrès, pas seulement technique, mais aussi du progrès de l'humanité dans le respect de notre fragile planète. Je vous propose de traiter ce sujet très vaste en trois parties. Pour commencer, je souhaite vous montrer que l'automobile vit actuellement une période charnière de son histoire. Ensuite, j'explorerai avec vous les grands défis qui attendent l'automobile. Et enfin, je terminerai dans ma troisième partie en partageant avec vous ma perception de l'impact de ces mutations profondes sur le métier d'ingénieur. Donc, afin de planter le décor, je vous propose de commencer en vous montrant que l'automobile est à un tournant de son histoire. Et justement, commençons par un peu d'histoire. L'automobile est née en 1886 avec Daimler, si on met de côté le fardier de Cugnot. Au début, cette invention a été réservée à quelques avant-gardistes fortunés. Très vite, elle a passionné les ingénieurs et les inventeurs. Saviez-vous que la première voiture à atteindre le 100 km/h a été la Jamais Contente en 1898, et c'était une voiture électrique. Louis Renault était surnommé l'homme aux 500 brevets. C'est lui qui a notamment inventé le turbocompresseur en 1902. C'est lui, il aura fallu attendre près de 75 ans pour que cette invention soit appliquée en série. Il aura fallu que les matériaux, la précision d'usinage et la productivité des usines permettent à cette invention de trouver le bon rapport valeur-coût pour être commercialisée et trouver sa clientèle. Avec Henry Ford, l'automobile s'est démocratisée et son célèbre Model T a permis à des millions d'Américains de se déplacer en famille. C'est aussi une période de très forte concentration des marques. En 1900, il n'y avait pas moins de 200 marques en France. En 1920, il n'y en a plus que quelques dizaines, dont 5 grands. C'est le triomphe du Fordisme et de la production de masse. L'automobile influencera ainsi profondément l'organisation du travail dans toute l'industrie. Après la Deuxième Guerre mondiale, la 4 chevaux Renault amplifie le mouvement et permet aux familles françaises de profiter pleinement de leurs semaines de congés payés. Dans le domaine industriel, la deuxième grande révolution après le Fordisme est l'œuvre de Toyota. Ce constructeur japonais engage une révision en profondeur du mode de production avec comme objectif numéro un la qualité. Cette nouvelle méthode vise le zéro défaut, le zéro déchet, le zéro stock, etc. Elle assurera le succès de ce constructeur qui détrônera General Motors en 2008, car le toyotisme a fait faire des progrès de géant, non seulement en qualité, mais également en productivité. Et là encore, l'industrie automobile s'est montrée pionnière pour les autres industries. Ce court résumé et ces quelques exemples montrent que le XXe siècle a été profondément influencé par l'automobile. Cette industrie a été l'origine de nombreuses percées techniques et de modèles industriels qui ont été généralisés aux autres industries. Finalement, l'automobile a accompagné le développement de nos sociétés occidentales et elle a été une source de progrès pour l'humanité en permettant une mobilité individuelle et une grande liberté. Mais à la fin du XXe siècle, à partir des années 80, l'image de ce produit qui avait entraîné une grande partie du progrès technique, qui faisait rêver tant de jeunes, qui était synonyme de liberté, a progressivement pâli, spécialement dans les pays industrialisés. La mortalité sur les routes, les encombrements, la pollution atmosphérique et plus généralement l'impact sur l'environnement ont fini par ternir l'image de l'automobile. Au début de ce 21e siècle, l'automobile doit donc se réinventer. Nous sommes donc bien à un tournant majeur. Au XXe siècle, la société s'est adaptée à l'automobile, s'est même parfois façonnée autour de l'automobile, songez au drive-in aux USA. Au XXIe siècle, nous entrons dans une époque où l'automobile va devoir s'adapter à l'homme et à la planète. Car ce besoin vital de liberté, de mobilité autonome, demeure et subsistera toujours. Ayons conscience que ce désamour de l'automobile touche surtout ceux qui y ont accès facilement. Ayons conscience que les trois quarts de l'humanité sont privés de ce moyen de liberté. Le défi majeur est donc de mener cette transformation profonde, de permettre à l'automobile de gommer ses effets négatifs pour continuer à être un formidable instrument de liberté et donc une source de progrès pour l'humanité, pour toute l'humanité, et ceci en protégeant notre planète. C'est ce que je souhaite développer dans ma deuxième partie. Je pense que pour réussir cette mutation, pour rester cette source de progrès, l'automobile est confrontée à 5 grands défis. Le premier est la sécurité des usagers de la route et pas seulement des occupants du véhicule. Le deuxième est la protection de l'environnement au sens le plus large. Le troisième sera la qualité de vie à bord du véhicule pour que le déplacement soit un plaisir. Le quatrième, c'est la performance économique afin de pouvoir offrir cette mobilité individuelle au plus grand nombre. Et enfin, le cinquième défi est l'intégration de l'automobile dans un système de mobilité plus large. Pour chacun de ces défis, je ferai un lien entre la situation récente, de manière à bien comprendre les enjeux et la manière dont on peut anticiper les progrès futurs. Commençons par la sécurité. Toutes nos sociétés recherchent de plus en plus le risque zéro. Toutes nos sociétés expriment de plus en plus une aspiration à une sécurité maximale. Les pouvoirs publics ne me démentiront pas, la mortalité routière n'est pas une fatalité et les progrès récents montrent qu'un objectif de tendre à terme vers zéro blessé grave sur les routes n'est pas une utopie. Quand je parle de zéro blessé grave, je ne parle pas seulement des occupants des véhicules, mais aussi des usagers vulnérables de la route, comme les piétons ou les cyclistes, car les progrès de l'automobile peuvent aussi prévenir les collisions et ainsi protéger ces usagers vulnérables. Lorsque l'on regarde la carte du monde, on y voit des contrastes très frappants par rapport à la sécurité routière. L'on peut déformer la carte en donnant à chaque pays une surface proportionnelle à la quantité totale d'automobiles, d'une part, ou au nombre de morts sur les routes. Lorsqu'on fait l'exercice, la France est 4 fois plus grosse que l'Inde pour le parc automobile, mais est 20 fois plus petite que l'Inde en nombre de morts sur les routes. On a donc un rapport de 1 à 80 en termes de sécurité entre la France et l'Inde. Lorsque l'on regarde comment se distribuent les victimes selon leur usage de la route, on voit qu'en France, la moitié des victimes sont les occupants des voitures, quand en Inde, cette proportion est seulement de 21%, chiffre que l'on trouve également au Brésil. Si on regarde maintenant la tendance, on voit que dans la zone européenne, le nombre de morts sur les routes a diminué de plus de moitié pendant que le parc automobile doublait en 20 ans. Mais cela cache une autre réalité. Les progrès récents de sécurité des véhicules, associés à l'amélioration des comportements des conducteurs par les actions préventives et répressives des pouvoirs publics, bénéficient majoritairement aux occupants des voitures. Ainsi, entre 2008 et 2009, les décès des occupants des voitures ont baissé plus vite que ceux des deux roues. Dans les dernières années, les progrès les plus importants ont été concentrés sur la réduction des risques de perte de contrôle du véhicule, l'ABS pour le freinage, l'ESP pour le contrôle de trajectoire, et sur la protection des occupants des voitures en cas de choc, mesurée par l'Euro NCAP avec le système des étoiles. Il subsiste encore des potentiels de progrès dans ces deux dimensions, mais la rupture nécessaire pour tendre vers cet objectif long terme de zéro blessé grave est d'optimiser le système constitué de l'infrastructure et des usagers de la route. Il va falloir, premièrement, détecter, prévenir et empêcher la collision au maximum. Ensuite, au cas où la collision se produirait quand même, protéger au maximum les victimes, qu'elles soient dans ou en dehors du véhicule, et dans le cas où il y aurait des blessés, avertir immédiatement les secours, ce qui peut sauver des vies ou des séquelles irrémédiables. Ce défi est formidablement motivant, car c'est un vrai défi citoyen, et comme beaucoup de confrères, nous pensons qu'il n'est plus hors de portée. Les progrès dans la connaissance de l'accidentologie, dans les différentes technologies faisant appel à l'électronique, et dans l'approche système, qui intègre l'infrastructure, donneront des résultats spectaculaires, surtout s'ils sont conjugués à une action continue sur les comportements des utilisateurs de la route. Je propose de passer à notre second grand défi, la protection de l'environnement, et cela au sens le plus large, comme je l'évoquais dans mon introduction. Ce sujet prend de plus en plus d'importance dans l'opinion publique. Vous connaissez sans doute le proverbe Maasai. Nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Eh bien, l'automobile est souvent, si je puis dire, l'arbre qui cache la forêt, car c'est un arbre que l'on voit facilement. Si l'on prend l'exemple des émissions de CO2 d'origine humaine, l'automobile représente environ 12 à 13% du total, alors que la plupart des gens pensent que la réalité est au-delà de 50%. Comme toujours, il est bon de s'en tenir au fait et d'agir partout où cela est possible. Chez Renault, nous considérons que l'automobile fait partie du problème et donc que nous devons absolument faire partie de la solution. L'impact environnemental revêt de nombreux aspects qu'il faut intégrer tout au long du cycle de vie des véhicules. J'en vois quatre. Le premier, le plus connu, est évidemment l'impact sur l'effet de serre et donc sur le climat, avec notamment un axe prioritaire sur le CO2. Le deuxième impact est celui sur la santé, dans les zones urbaines, par les émissions toxiques, mais aussi par l'emploi de substances toxiques. Le troisième impact est celui sur les sols, par les rejets industriels. Et enfin, le dernier est l'impact sur la consommation des ressources rares de la planète. Je reprendrai chacun de ces impacts successivement. Le défi donc pour l'automobile ne peut donc être que de tendre vers zéro impact sur l'environnement. Je propose de commencer par l'effet de serre, qui mobilise, si je puis dire, le plus d'énergie actuellement. Et le premier facteur à mettre sous contrôle est évidemment le CO2. Ce facteur est extrêmement corrélé à la consommation de carburant et donc des ressources fossiles. J'y reviendrai pour le quatrième impact, celui des ressources. En d'autres termes, le facteur le plus efficace pour baisser le CO2 est le coût de l'énergie d'origine fossile. Plus il est élevé, et plus les différents acteurs économiques seront incités à réduire les consommations et donc les émissions de CO2. De plus, il est important de bien intégrer les émissions totales sur la vie du véhicule, et cela du puits de pétrole jusqu'à la roue. Cela signifie qu'il faut compter les émissions de CO2 générées pour produire l'énergie utilisable par le consommateur. Alors, dans le cas du véhicule électrique, évidemment, cela peut aller de 0 g par kilomètre pour une production d'électricité par un barrage hydroélectrique jusqu'à 120 g par kilomètre pour une production à base de charbon. Ensuite, à cette consommation de CO2, il faut ajouter l'énergie nécessaire pour fabriquer la voiture, l'énergie nécessaire pour la faire rouler et enfin pour la recycler. Sachez que ce que l'on appelle l'énergie du réservoir à la roue, donc l'énergie, la consommation de CO2 pendant l'usage du véhicule, représente environ 140 g par kilomètre pour une voiture moyenne moderne. Alors, en Europe, les voitures neuves ont réduit leurs émissions de CO2 de plus de 25% dans les dernières 20 dernières années. Pour autant, compte tenu des effets de parc, donc la croissance du parc et le renouvellement lent du parc par les voitures neuves, cela se traduit finalement par une stabilisation des émissions automobiles, et il faut donc accélérer la réduction de ces émissions. La Commission européenne a tracé deux grandes étapes qui conduiront en 2020 à des émissions de CO2 réduites de 40% par rapport à celles de 2008. C'est certainement notre plus grand défi. Des solutions existent pour atteindre zéro émission, mais les conditions économiques sont loin d'être réunies pour les rendre accessibles à tous les clients. Différentes stratégies sont développées par les constructeurs. Chez Renault, nous développons une stratégie de mobilité durable pour tous. Ceci signifie que nous mettons sur le marché des solutions qui sont dans les moyens des acheteurs. C'est notre label ECO2 pour écologique et économique. Cette stratégie se déploie selon deux grands axes. Le premier concerne la préparation du long terme, qui sera fait de véhicules à zéro émission en développant dès maintenant les véhicules électriques. Vous le savez, Renault croit beaucoup aux véhicules électriques et investit avec son allié Nissan 2 milliards d'euros pour amorcer la diffusion de masse de ces véhicules que nous voyons prendre une part de marché de 10% en 2020. C'est une vraie révolution, très ambitieuse et qui prépare le long terme. Elle se poursuivra avec la montée en puissance des piles à combustible. Mais tout ceci prendra du temps, d'où notre deuxième axe. Il consiste à utiliser toute l'ingéniosité de nos équipes pour réduire les pertes au niveau de nos véhicules et augmenter le rendement des moteurs thermiques, et cela en limitant les coûts pour que nos clients ne subissent pas de charges supplémentaires. Les 20 ans qui viennent verront encore une majorité de motorisation thermique, mais plus économe de moitié par rapport à aujourd'hui. Pour ce qui est du deuxième impact, celui sur la santé humaine dans les villes, la réduction des émissions toxiques a été extrêmement rapide. En Europe, dans les 20 dernières années, les émissions des véhicules lancés sur le marché ont diminué de près de 90% en moyenne et jusqu'à 98% lorsque l'on compte les particules des moteurs diesel, en répondant ainsi aux normes de dépollution. Il reste encore du chemin pour parvenir à l'impact zéro, mais c'est surtout l'effet de parc qui ralentit les progrès. La moitié du parc européen a plus de 10 ans et l'effet des véhicules les plus récents ne se fera donc totalement sentir que dans 20 ans. Je suis personnellement très confiant sur le fait que ce problème sera résolu dans les 20 ans qui viennent. Pour le troisième impact, les normes industrielles de type 14001 ont édicté des règles très strictes qui protègent les sols de la pollution. Toutes les usines du groupe Renault respectent ces normes et la certification est assujettie à des contrôles réguliers. Ce problème me semble bien sous contrôle pour ce qui est de notre activité. Et enfin, pour ce qui est du quatrième impact, celui sur la consommation des ressources rares de la planète, il reste beaucoup à faire, évidemment. La première ressource rare est l'énergie d'origine fossile. Les actions sur la réduction du CO2 agiront en même temps sur la réduction de la consommation d'énergie non renouvelable. Mais il faut aussi considérer les autres ressources rares que sont certains matériaux. Si le silicium n'est pas prêt de s'épuiser, et heureusement, car il est à la base des semi-conducteurs et donc de l'électronique, ce n'est pas le cas de bien d'autres matériaux. L'eau, par exemple, devient une ressource de plus en plus rare selon les régions. La Chine risque ainsi de perdre 40% de ses réserves en eau d'ici 15 à 20 ans. Par ailleurs, les perspectives sur le cuivre sont assez pessimistes puisque nous risquons l'épuisement des ressources primaires dans les 25 ans. Il existe maintenant un recensement très détaillé des risques à terme sur toutes ces ressources et sur leur répartition géographique. Tout le monde a en tête la concentration du pétrole au Moyen-Orient, mais un autre matériau important comme le lithium, qui est nécessaire dans les batteries des véhicules électriques, est lui concentré en Bolivie. Alors pour relever ces défis, la maîtrise du cycle de vie prend de plus en plus d'importance avec la montée en puissance du recyclage. Le recyclage est de plus en plus pris en compte dès les premiers pas de la conception afin de développer des pièces qui favorisent le démontage et le recyclage et ainsi de fermer la boucle matière. La recherche est très active dans ces domaines car les véhicules en fin de vie sont en passe de devenir les mines de demain destinées à fournir les matières pour les véhicules des générations à venir. Et puis bien sûr, les recherches devront trouver des matériaux de substitution et, à chaque fois que c'est possible, renouvelables. J'ai été un peu long sur ce thème de l'environnement, mais c'est clairement le défi le plus difficile et aussi le plus nécessaire pour le long terme. Je ne sais pas si nous parviendrons à atteindre ce zéro impact sur l'environnement, mais en tout cas, voilà un champ idéal pour que les ingénieurs expriment tous leurs talents. J'y reviendrai dans ma troisième partie. C'est un domaine où nous devrons savoir nous ouvrir à d'autres sciences que celles que nous pratiquons traditionnellement. Je propose de passer maintenant à mon troisième défi. Alors celui-ci, il est beaucoup plus ludique, puisqu'il s'agit de la qualité de vie à bord du véhicule pour que le déplacement soit un plaisir. Parce que la voiture a aussi été souvent un objet de passion. Il ne faut pas l'oublier. Alors ce domaine est très vaste, puisqu'il s'agit de satisfaire à la fois le conducteur, mais aussi ses passagers. Pour ce qui est du conducteur, je crois que les progrès principaux seront dans la facilité de conduite et dans la sensation de maîtrise au doigt et à l'œil. Ceci concernera l'immense majorité des conducteurs. Bien sûr, il restera certainement aussi un peu de place pour les passionnés de sport automobile, mais ce sport lui aussi devra se mettre en phase avec les contraintes environnementales. L'enjeu est donc de permettre aux conducteurs de rester entièrement maître de son véhicule, et cela sans effort. Ceci se traduira surtout par des châssis intelligents, au sens où, tout en restant d'un prix abordable, ils permettront un guidage optimum du véhicule dans toutes les situations de conduite rencontrées, telles que passage d'une courbe, freinage d'urgence, manœuvre d'évitement, mais aussi manœuvre en ville. L'automatisation de la conduite est un axe de progrès qui fait l'objet de nombreuses actions de recherche, mais aussi de nombreux débats. On conçoit assez bien qu'une voiture capable d'aller se garer toute seule à sa place de parking, sans l'intervention du conducteur, est un progrès qui ne pose pas débat. En revanche, aller jusqu'à une automatisation qui prenne en charge le trajet complet depuis Paris jusqu'à Nice pose d'autres questions, et notamment en termes de responsabilité. Néanmoins, si l'on considère une mobilité pour tous, certaines personnes handicapées ne seraient alors plus exclues. J'ai parlé du conducteur. Parlons des autres occupants du véhicule, les passagers. Nous travaillons à offrir une qualité de vie qui soit un prolongement du lieu de vie, en offrant une continuité dans la télécommunication et du bien-être à bord du véhicule. Ceci devrait se traduire par une sorte de route à deux voies, intégrée dans une réflexion plus générale sur les systèmes de mobilité. La première voie, c'est de réduire toutes les formes de stress inhérentes à la conduite et au trajet. Et la deuxième, c'est d'accroître au contraire tout ce qui concourt au confort et au bien-être à bord, à la sérénité et à la confiance. Les pistes principales concernent trois ruptures. Une rupture technologique et de coût dans les architectures des véhicules qui permettra de rendre accessibles à tous de nouvelles prestations de confort et de bien-être. Une deuxième rupture dans l'usage avec des interfaces plus simples et plus intuitives entre les occupants et leur voiture, en particulier pour les seniors, mais aussi pour les jeunes connectés et enfin pour accompagner le développement à l'international. Et puis la troisième rupture, c'est une rupture de modèle économique en associant une connectivité sans fil, devenue accessible à tous, et de nouveaux services de mobilité. Alors oui, l'automobile n'a pas vocation à rester purement fonctionnelle. Elle peut encore faire rêver, c'est un objet de passion. Et cette passion, eh bien, il nous revient à nous constructeurs de l'entretenir et de faire de beaux objets. Je propose de passer maintenant au quatrième enjeu majeur. C'est un enjeu de diffusion au plus grand nombre et donc de performance économique. Pour que l'automobile assure ce rôle de vecteur de progrès, il nous faut offrir cette mobilité à des prix de plus en plus abordables, notamment pour que ce progrès soit accessible à tous et donc évidemment aux habitants des pays émergents, comme l'Inde ou comme la Chine. Nous devrons savoir offrir une gamme plus étendue avec un contenu adapté à chaque région. La Logan a montré la voie en offrant un contenu juste nécessaire et a ouvert l'accès à l'automobile à un très grand nombre. Et là encore, les ingénieurs devront mobiliser toute leur ingéniosité pour trouver des techniques de production les plus efficaces, les plus simples, les plus économiques. Notre industrie est très fortement capitalistique et nécessite des investissements qui se comptent en centaines de millions d'euros. Un des défis majeurs est de revoir en profondeur nos process de fabrication pour réduire fortement ces investissements. L'autre enjeu est de concevoir un système industriel mondial qui permette une fabrication au plus près des marchés. En effet, l'impératif CO2 que j'ai évoqué tout à l'heure se conjugue assez mal avec des déplacements massifs de sous-ensembles, voire de véhicules complets. Et cet impératif économique, même s'il fait moins rêver les ingénieurs, eh bien c'est aussi une des dimensions les plus citoyennes des enjeux que nous aurons à relever. Enfin, je voudrais donc terminer cette partie sur les défis par celui de l'automobile dans un nouveau système de mobilité que j'appellerais l'automobilité. Le modèle traditionnel est la possession du véhicule. Ce modèle subsistera, mais sera complété par un mode de partage et aussi une meilleure complémentarité des transports. Nous considérons qu'avec le développement des véhicules électriques et l'articulation avec les transports urbains ou interurbains, une nouvelle forme de mobilité va se développer. Le principe de l'autopartage commence à faire son chemin, par exemple. Beaucoup d'acteurs du secteur automobile, du secteur des transports ou des technologies de la communication explorent ce nouveau champ. Il faudra réunir pas mal de conditions pour développer ce modèle, comme par exemple des véhicules à la fois très résistants aux agressions liées aux utilisateurs multiples. Ceux qui connaissent les Vélib savent que ces vélos n'ont pas une durée de vie très très longue. Des véhicules résistants donc, des véhicules très faciles à utiliser, très intuitifs et aussi personnalisables facilement. Mais aussi un mode d'accès très facile en connexion avec les moyens modernes de communication. Et enfin, un coût d'usage très compétitif. Ceci participera également à un accès à la mobilité à un plus grand nombre. L'autopartage ne sera évidemment pas le seul axe de cette nouvelle mobilité. Les réflexions concernent toute l'articulation entre les différents modes, avec des systèmes permettant aux personnes de trouver immédiatement le meilleur moyen de se déplacer rapidement, en toute sécurité et au meilleur coût. Au passage, je viens du technocentre tout à l'heure et j'ai bien utilisé l'intermodalité. J'ai posé ma voiture près du métro qui est à côté de chez moi et j'ai fini le trajet dans le métro. Donc ce cinquième enjeu n'est certainement pas le plus simple. Il fera entrer l'automobile dans une nouvelle dimension en étant intégré dans un système au même titre que le vélo ou le TGV. Et Renault, depuis les années 90, travaille sur ses projets d'être architecte de la mobilité. Finalement, avec ces cinq enjeux, vous voyez que l'automobile a devant elle de bien beaux défis. Nous pensons, chez Renault, que si l'industrie automobile et les autres secteurs qui lui sont connexes savent relever ces défis, alors réellement, l'automobile a bien vocation à rester un superbe moteur de progrès pour l'humanité et dans le respect de la planète. Les moyens de relever ces défis devraient se concentrer sur les grandes percées scientifiques et technologiques qui se dessinent à l'aube de ce 21e siècle. La réussite passera par l'intégration de ces technologies et par une approche systémique. Et cela, c'est bien le domaine des ingénieurs. Mais il faudra aussi savoir quitter le domaine de la technologie pour bien intégrer celui des biosciences, la connaissance plus intime de l'homme, pour interagir avec le marketing et les services. En un mot, pour s'ouvrir davantage aux autres métiers. Et c'est cela que je propose de développer dans ma troisième et dernière partie. Alors, quel pourra être l'impact de cette mutation de l'automobile sur le métier de l'ingénieur? Là encore, je vous propose de partir de l'exercice actuel du rôle de métier d'ingénieur, sans trop m'apesantir, afin de pouvoir montrer ensuite ce qui va évoluer. Comme nous l'avons vu dans la première partie, les ingénieurs ont expérimenté par l'automobile des systèmes industriels qui ont influencé le reste de l'industrie, le Fordisme et le Toyotisme. Ils ont mécanisé le travail de production dans lequel l'homme est devenu un élément du système. Mais le produit automobile s'est complexifié énormément depuis son origine. Savez-vous, par exemple, que dans une Mégane d'aujourd'hui, il y a autant d'intelligence embarquée que dans les premiers Airbus A300? L'automobile est un produit de masse, mais avec une très haute exigence de sécurité, d'autant qu'il n'est pas conduit par des professionnels, comme c'est le cas pour les moyens de transport en commun. Cette complexité a eu pour conséquence, dans les 20 dernières années, de transposer les principes de fonctionnement des systèmes industriels à l'activité de conception. En effet, un bureau d'études est devenu une véritable usine à produire des plans, on dit des NUM dans le jargon, puisque les plans sont tous numériques, Cette complexité nous a aussi conduit à remplacer de plus en plus les techniciens par des ingénieurs dans les tâches de conception. Ce système de conception s'appuie sur une très forte structuration des projets et des métiers en interaction avec des processus de convergence et de décision. De plus, la conception des pièces, des sous-ensembles et au final de la voiture complète fait appel à des standards à respecter strictement pour tenir les objectifs de qualité, de coût et de planning. Et je retrouve chez Renault beaucoup de ce qui a été évoqué par Valérie Caze sur l'intelligence collective et aussi par Gabriel Marbach sur la complémentarité entre généralistes, spécialistes et experts. Si vous prenez un programme comme Mégane, il comporte 8 carrosseries différentes, vendues dans le monde entier, et il a été conçu en 3 ans. Il a mobilisé près de 6000 personnes. Alors, la maîtrise d'œuvre, bien, est assurée par une structure projet extrêmement légère, de 5 personnes. Cette équipe projet a pour mission de piloter la convergence vers les objectifs du programme, objectifs qui sont tous en rupture par rapport au modèle précédent. Il faut savoir concilier les désirs du design, qui sont de l'ordre de la création artistique, avec les contraintes de fabrication. Il faut savoir concilier l'allègement avec l'augmentation des prestations qu'on donne aux véhicules. Et cette maîtrise d'œuvre donc est relayée par des généralistes de type ingénieur en chef qui assurent l'optimisation des sous-systèmes comme le châssis ou comme le moteur par exemple. Et chacun de ces généralistes mobilise toutes les compétences nécessaires à l'optimisation de son sous-système. L'approche système est de plus en plus développée pour tirer tout le potentiel des différents spécialistes. Alors, en m'écoutant, on pourrait penser que l'activité de conception c'est beaucoup mécanisé, c'est vrai. En revanche, ça reste toujours une très grande aventure humaine et je vous garantis que lorsque le premier véhicule sort d'usine, c'est vraiment la fête. Alors, pour me résumer sur l'état des lieux, je pense que la période actuelle se caractérise donc par un métier d'ingénieur qui a dû développer une ingénierie organisée comme une usine à produire des plans, qui a structuré l'intelligence collective et organisé la coopération entre généralistes, spécialistes et experts. Par ailleurs, la complexité des technologies a conduit à mettre de plus en plus d'ingénieurs pour assurer les tâches de conception. Lorsque j'ai commencé en 1982, un ingénieur était en tant que cadre, très rapidement à la tête d'une petite équipe. Ce n'est plus le cas pour les ingénieurs débutants, et une des conséquences de tout cela a été que beaucoup d'ingénieurs, s'ils reconnaissent la performance du système, aspirent à jouer davantage le rôle de créateur ou d'architecte. Et en cela, je rejoins une analyse que Claude Maury avait conduite en 2004, selon laquelle l'ingénieur est de plus en plus confiné dans une fonction de maître d'œuvre. Il est devenu un acteur qui apporte les solutions et de moins en moins celui qui pose les questions. Alors, comment les enjeux que j'ai décrits dans ma deuxième partie peuvent entraîner une nouvelle mutation du métier d'ingénieur? Comment ce beau métier peut-il conduire ces changements indispensables? Je vais tenter modestement de vous faire part de ma perception des choses en tant qu'industriel et non en tant qu'expert et encore moins en expert en prospective. Si l'automobile est à un tournant de son histoire, si elle se retrouve devant un changement de paradigme, n'en serait-il pas de même pour nos processus de conception? Peut-on se contenter d'approfondir une ingénierie très standardisée et faite pour produire à grande cadence des projets semblables? Je pense qu'il faudra continuer à s'appuyer sur ces fondamentaux, car la mutation sera progressive, mais également se préparer dès maintenant à un changement de paradigme. Pour assurer ces grandes mutations, je crois que nous devrons adopter une vision système encore plus large et revoir le découpage des responsabilités. Je crois aussi que nous devons savoir innover autrement, quitter le toujours plus pour trouver la juste innovation frugale et radicale. Pour cela, le maître mot sera l'ouverture. l'ouverture de plus en plus grande aux autres métiers, aux autres disciplines. Derrière ce mot d'ouverture, j'entends les notions de curiosité pour des domaines inconnus, de capacité d'écoute, d'autres modes de raisonnement, mais aussi de capacité à coopérer avec des acteurs différents. Alors, je pense d'abord à l'ouverture aux sciences, mais aux autres sciences que les sciences traditionnellement liées aux machines. L'ouverture aux métiers du service, du marketing, du business, et aussi du domaine artistique avec le design. L'ouverture aux acteurs de la cité, de l'aménagement du territoire. Cette ouverture tirera tout son potentiel si elle sait, en même temps, profiter de la diversité des cultures sur la planète, si elle sait tenir compte de la richesse que représente cette diversité. Chez Renault, nous avons notamment beaucoup reçu dans nos échanges avec nos collègues japonais de Nissan, et eux aussi, bien entendu, en retour. Je n'ai pas mentionné l'ouverture vers la finance, car elle existe déjà et semble suffisamment attractive pour nos ingénieurs. Je me limiterai donc ce soir à développer un tout petit peu l'ouverture aux sciences. Il est clair que le métier de l'ingénieur va devoir continuer à utiliser et à intégrer le produit des sciences traditionnellement dans son champ, la physique, la chimie, les sciences de la matière, les mathématiques. Les progrès de la connaissance s'accélèrent à un tel rythme que c'est déjà un beau défi que de les digérer et de les exploiter. Mais il faut aussi, je crois, nous ouvrir à d'autres domaines scientifiques. Comme nous l'avons vu, le défi le plus important est bien celui de l'environnement. Comment préserver les ressources planétaires sur le long terme ? Force est de reconnaître que la nature a toujours su parfaitement développer la vie sans épuiser ses ressources. Elle a su se servir de l'énergie inépuisable qui est celle du soleil. Elle a su assurer le cycle complet de la vie et notamment le recyclage complet de ses déchets. La photosynthèse reste un des modèles énergétiques les plus performants. Les protéines ne font pas appel à des métaux précieux pour catalyser les réactions nécessaires dans les organismes vivants. Les ingénieurs ont souvent imité la nature dans leurs machines. Mais je crois qu'une bien meilleure articulation avec les sciences de la vie permettra des percées spectaculaires dans notre combat vers le zéro impact sur l'environnement. Comme nous l'avons vu, l'autre défi majeur est celui de l'humain. Il concerne la sécurité, mais aussi la santé, le plaisir et le bien-être. Pour cela, il va falloir renforcer considérablement les liens avec les sciences de l'homme. Il va falloir comprendre en profondeur comment concevoir nos machines pour bien intégrer cette dimension humaine. En matière de sécurité, nous avons créé il y a 40 ans un laboratoire commun avec Peugeot et SA sur l'accidentologie. Ce laboratoire est dirigé par un médecin spécialiste de biomécanique. La coopération entre les concepteurs et ce laboratoire a conduit à d'énormes progrès dans la protection des occupants. L'exemple le plus récent est un système que nous avons introduit dans la gamme et qui s'appelle le système de retenue programmée et qui a considérablement réduit les lésions au thorax par une connaissance approfondie des efforts maximum que peut encaisser la cage thoracique. Nous comptons amplifier de plus en plus la connaissance des facteurs humains pour tendre vers notre cible long terme de zéro blessé grave. L'autre exemple concerne la santé et le bien-être. Nous coopérons de plus en plus avec les laboratoires Biotherm. Alors, ces laboratoires ont développé une connaissance approfondie des mécanismes cellulaires de la peau et aussi une expertise scientifique avérée sur les vertus de l'aromathérapie. Avec leur concours, nous explorons des climatisations qui sont repensées pour éviter le dessèchement cutané. Et de même, nous coopérons avec Biotherm, toujours, sur la diffusion de senteurs actives qui pourraient permettre d'agir sur le stress. En synthèse, ce beau métier d'ingénieur a vocation à accompagner des formidables mutations. Pour cela, il devra approfondir sa compétence de réalisateur, abouti dans les systèmes de conception standardisés, mais il devra enrichir son spectre en s'ouvrant à beaucoup d'autres métiers. Ainsi, il peut avoir l'ambition de jouer aussi le rôle de maître d'ouvrage en plus de son rôle traditionnel de maître d'œuvre. Il est maintenant temps de conclure. Alors, l'être humain a toujours eu et aura toujours une grande soif de liberté de mouvement. L'automobile, qui a toujours été depuis ses origines un grand vecteur de liberté, a joué un rôle majeur dans le développement des sociétés industrialisées et accompagne aussi celui des pays en développement rapide, Brésil, Russie, Inde et Chine, de la même façon. Le défi majeur est donc de permettre à l'automobile de rester ce formidable instrument de liberté. Et pour cela, l'automobile devra être pionnière dans la protection de la planète. L'automobile devra assurer un niveau de sécurité comparable aux transports publics les plus sûrs. L'automobile devra offrir la mobilité au plus grand nombre et dans un système de mobilité intermodal. À cette condition, elle continuera à être une source de progrès pour toute l'humanité, et ceci en protégeant notre planète. Et j'espère que, comme moi, les ingénieurs se mobiliseront pour réussir cette mutation enthousiasmante. Ils auront ainsi une opportunité de se dépasser et de se développer au service de la société. Et personnellement, je suis très heureux de contribuer à cette belle mission dans une entreprise comme Renault, une entreprise qui s'engage résolument pour être le pionnier de la mobilité durable pour tous. Je vous remercie de votre attention.
Eh bien, question dans la salle. Une question à notre droite.
Bonsoir. J'aurais plein de remarques suite à votre exposé, mais je vais me limiter à deux. On voit que l'objectif de l'industrie est de diminuer la consommation des moteurs, mais ce gain est toujours mangé par un alourdissement des équipements de l'automobile. Donc ne pensez-vous pas qu'en fait c'est un objectif inatteignable? Et deuxièmement, dans l'exposé des ressources rares, vous avez oublié un point très important qui est l'espace consommé par la voiture. Ça prend une place du diable dans la société. Il n'y a que voir comment les villes sont occupées par la voiture, puis aussi l'étalement urbain, la construction de routes. Donc je pense que si vous avez oublié ça, c'est un petit peu un lapsus et ça montre que l'industrie de l'automobile a du mal à voir son impact sur le reste de la société. Ne pensez-vous pas que pour qu'elle survive, elle devra diminuer un petit peu sa place dans la société?
Merci pour les deux commentaires et donc les questions qu'elle suscite. Alors, première question sur la consommation. Ce que j'ai fait valoir, c'est deux choses. Donc, la consommation d'énergie fossile. Donc là, tout ce que nous mettons en œuvre pour réduire le CO2 participera à réduire la consommation d'énergie fossile. Ça ne veut pas dire qu'on ne consommera plus d'énergie. On consommera d'autres formes d'énergie. Donc, quand je prendrai deux exemples, le véhicule électrique, bon, lui bénéficiera d'une énergie qui aura été produite actuellement par différentes sources, mais comme toute la société doit se préparer à réduire l'effet de serre, le poste de fabrication d'électricité, lui aussi, devra progressivement réduire ses consommations d'énergie fossile. Je ne l'ai pas mentionné, mais nous travaillons aussi sur l'emploi de biocarburants. Alors, il y a deux types de biocarburants. Il y a des biocarburants qui posent question, ceux de première génération, puisqu'ils emploient les graines. Ceci, effectivement, pose la question du bon emploi des plantes. Maintenant, les biocarburants de deuxième génération qui, eux, utiliseront les tiges, la cellulose des plantes, ne poseront plus ce problème-là. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre d'axes qui permettront d'assurer l'énergie, de donner l'énergie à ces véhicules sans impact pour l'environnement. Votre deuxième question sur l'encombrement finalement des villes. Eh bien, tout à l'heure, j'ai essayé d'expliquer qu'il y avait finalement un petit peu deux types de sociétés. Les nôtres, pour lesquelles effectivement le taux de motorisation en France, on a donc 50 véhicules pour 100 habitants. Donc on voit qu'on est sur une asymptote, mais beaucoup de pays, j'ai cité l'Inde, on peut citer la Chine, dans ces pays-là, beaucoup de gens aimeraient avoir accès à la mobilité et n'y ont pas accès. Donc je vous rejoins sur le fait que à un moment donné, il y a une saturation du trafic, d'où ce que j'ai évoqué sur l'intermodalité, faire en sorte que les clients puissent se déplacer en utilisant à chaque fois le moyen de transport le plus adapté. Je pense que dans nos sociétés industrialisées, on va vers un modèle qui combinera ces différents moyens. N'oublions quand même pas tous les pays qui sont en développement rapide et pour lesquels, eux aussi, il y a une forte aspiration à pouvoir se mouvoir.
Autre question ?
Alors, dans ma question, il y a deux parties. La première, que je voudrais faire constater que d'une manière générale, pour moi qui conduis depuis très longtemps, que la maintenance automobile est quelque chose de plus en plus compliqué. Bon, parce que on s'aperçoit en automobile que la plupart du temps, les défauts électriques, c'est des défauts de masse. Hein? Alors, pourquoi avoir choisi ce modèle ? Hein, ça, c'est un premier point. Le deuxième point de ma question, c'est que je reproche beaucoup aux marques d'automobiles de pas se servir des moyens qu'on a de connaissance de l'homme. Je veux dire, moi, l'électrocardiogramme qu'on peut à l'heure actuelle embarquer, l'électroencéphalogramme qu'on peut également embarquer, le film de ce qui se joue tous les jours. Ça, c'est un point, moi j'utilise pour une période, pour un kilométrage très faible, tous les jours à peu près la même chose, et j'aurais souhaité qu'avant de lancer une marque de voiture, on m'ait proposé à moi d'essayer cette voiture pour avoir des éléments chiffrés qu'on puisse démonter comme ça a été fait pour je sais plus quelle marque de voiture. Elle a fait 50 000, elle a fait 100 000, on la démonte et on regarde quelles sont les pièces qui ont été usées. Ça, c'est très important à long terme. Voilà mes questions. Je vous remercie.
Merci, monsieur. Bon, alors, sur la question de la maintenance qui devient de plus en plus compliquée, bon, il est... Je l'ai dit, finalement, la voiture par rapport aux origines, par rapport à la première Daimler, effectivement, elle s'est beaucoup compliquée. Pour pouvoir réduire les émissions toxiques, pour pouvoir baisser le CO2, pour pouvoir donner plus de puissance, pour assurer plus de sécurité, il n'y a pas eu d'autre moyen que de mettre davantage de technologie. Donc, effectivement, l'électronique a pris de plus en plus de place. Alors, la contrepartie aussi, c'est quand vous regardez d'autres industries, mon collègue connaît très bien l'aéronautique, on imagine mal un avion aujourd'hui sans électronique et sans électricité. Pour autant, la qualité de conception, la qualité de maintenance fait que vous avez un taux de service qui est quand même, je sais pas quelle est la valeur, mais c'est dans les 98%, chose comme ça. Bon. 10-6. OK. Bon, donc La question est plutôt la maîtrise de la complexité que de pouvoir s'en passer. Alors, ça fait partie aussi de l'objet de nos travaux. Quant à la connaissance de l'homme, je suis content que vous posiez la question, puisque tout à l'heure, j'ai indiqué dans mon exposé que il me semble de plus en plus important que dans la conception de nos véhicules, on intègre beaucoup plus la composante connaissance de l'homme. J'ai évoqué pour la sécurité, le lien qu'on fait avec la biomécanique, mais si on veut assurer le bien-être ou la santé à bord, effectivement, pourquoi ne pas utiliser d'autres moyens ? Donc ça fait partie des choses qui sont tout à fait ouvertes. Et merci de votre question.
Bonjour. Vous parlez du confort dans la voiture pour les conducteurs, le plus possible qu'ils aient le plaisir de conduire, et je trouve ça formidable. Mais pour en arriver là, il faut, comme vous avez dit tout à l'heure, j'ai entendu que maintenant, il faudra remplacer les techniciens par des ingénieurs. Donc, ça devient de plus en plus complexe.
Oui.
Et moi, je me demande si les écoles actuellement forment les ingénieurs pour ce gros travail qui devient de plus en plus difficile. Il y a eu des conférences là dernièrement. C'était sur un autre sujet, mais c'était sur la santé. Il y avait la biologie. Et il y a un des intervenants qui a dit que ceux qui sortaient des grandes écoles en biologie, pour lui, qui était dans une société privée, ça lui était pas possible de pouvoir les utiliser. Il aimait mieux utiliser des vétérinaires. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est que dans l'automobile, comme dans d'autres secteurs, il y a beaucoup de gens qui se suicident à l'heure actuelle. Alors on se demande si, en fait, est-ce qu'ils ont une formation qui est vraiment adaptée pour justement subir cette pression qui est de la production, de la rentabilité, et puis de la recherche par elle-même, qui est sûrement beaucoup plus fatigante et technique qu'elle n'était avant. Et voilà, savoir d'où ça vient. Est-ce que vraiment les gens ne sont pas adaptés ou est-ce que c'est les écoles qui ne sont pas adaptées ?
Voilà une question une question bien vaste dont je vous remercie. Alors il y a je vais essayer de reformuler la question telle que je l'ai ressentie, hein. Donc ce que vous dites, c'est que les défis que j'ai évoqués, notamment sur autour du plaisir de conduite, devraient conduire encore à davantage de complexité. Et est-ce que on donne les moyens aux acteurs de pouvoir accéder à cette complexité? Donc il y a la formation. J'ai évoqué avec vous quelques pistes qui pourraient être débattues avec les grandes écoles. Finalement, comment préparer encore mieux nos ingénieurs pour rentrer dans l'industrie? J'ai évoqué aussi l'ouverture entre les métiers. Et ça, je pense que je crois que ma collègue l'a évoqué, l'époque où quelqu'un dans son garage pouvait faire un prototype d'avion, il est révolu depuis un petit moment. C'est-à-dire que de toute façon, on a absolument besoin de faire travailler des équipes pluridisciplinaires. Donc là, il y a un véritable enjeu, c'est comment arriver à faire que ces différentes disciplines se comprennent et coopèrent. Ça, c'est un axe qui me semble extrêmement important. Et qui devrait permettre de faire ça. Alors, vous avez fait allusion à des questions relatives au stress. Je crois que il faut effectivement le reconnaître. L'industrie a des challenges, mais là aussi, je suis convaincu que c'est pas du tout une fatalité. Nous avons chez Renault bien pris la mesure des choses et c'est, je dirais, plutôt dans la dimension management qu'on peut effectivement continuer à obtenir de la performance tout en faisant bien attention aux gens, aux personnes. Donc pour moi, il n'y a pas de fatalité.
Oui, bonsoir. Vous avez fait allusion à l'approche systémique.
Oui.
Vous avez fait également allusion au modèle de management environnemental ISO 14001.
Oui.
Mais vous n'avez pas fait allusion aux modèles d'approche globaux, qui sont les modèles EFQM, tous ces modèles-là, qui permettent à l'entreprise de véritablement mesurer les écarts qu'elle a par rapport à l'idéalité, par rapport à un idéal de management vraiment systémique global.
Vous avez tout à fait raison. C'est aussi une dimension qu'il faudrait bien intégrer. Ok.
Merci. Une question, oui, à notre droite, ici. Les questions sont plus sur la droite que sur la gauche.
Dans les forums ingénieurs, les forums des ingénieurs étudiants auxquels vous participez, est-ce que vous avez l'impression que les ingénieurs sont prêts à cette révolution qui finalement ils vont devoir vivre?
Oui, alors on a une situation un petit peu particulière. Je pense que ça dépend d'ailleurs un peu des régions du monde. Il y a une question d'attractivité pour les secteurs. Si on prend un petit peu une échelle sur la planète, aux États-Unis, l'automobile, franchement, n'attire plus grand monde. Les ingénieurs sont tous très attirés par les nouvelles technologies. Donc Apple fait plus rêver que l'automobile. Si vous allez en Asie, au Japon, en revanche, l'automobile continue à être un vecteur très très fort d'attraction. Et en Europe, on est peut-être un petit peu entre les deux. Donc je crois que de notre côté, il est important aussi de montrer, comme j'ai essayé de le faire ce soir, tous les enjeux qu'il y a et en quoi ce sont des défis motivants pour les ingénieurs. Et également, comme vous l'avez indiqué, participer à ce que dans la formation des ingénieurs, ils aient l'occasion de toucher à nos produits et de s'y préparer, quoi. Je pense qu'on a un premier axe qui est de faire mieux connaître tous les défis qui nous attendent et en quoi ce produit a de beaux jours devant lui et en quoi les ingénieurs peuvent beaucoup y contribuer, quoi.
Eh bien, merci. Peut-être juste une dernière question. Une dernière question à notre droite et puis.
Oui, bonsoir. J'aimerais revenir pour finir sur l'intermodalité. Vous avez rappelé, vous avez même insisté sur l'automobile comme moyen de liberté. Mais vous avez aussi rappelé que tout au long du XXe siècle, l'automobile avait forgé l'univers de l'humain, ce qui pour un moyen de liberté me paraît peut-être un petit peu paradoxal. Et donc, lors du XXIe siècle, un de ses grands défis, c'était s'interconnecter avec les autres moyens de transport et peut-être d'avoir un peu plus d'écoute sur l'interface avec ces moyens de transport. J'avais deux questions là-dessus, peut-être un peu plus précises que ce que vous avez dit. Quels sont aujourd'hui les lieux de discussion que vous avez d'ores et déjà avec les partenaires, par exemple ferroviaires? Et est-ce que ces discussions pour vous doivent déboucher sur la création de nouveaux modèles qui soient spécifiquement dédiés à ce type d'intermodalité, ou est-ce que peut-être l'ensemble du parc automobile ou l'ensemble de la production de Renault se verra évoluer en fonction de cette possibilité d'intermodalité?
Alors oui, nous avons en ce moment pas mal de discussions. J'ai parlé de notre grosse percée que nous préparons dans les véhicules électriques. Et là, ce sont des véhicules qui sont par nature faits pour des trajets relativement courts, donc pas pour faire le Paris-Nice que j'évoquais tout à l'heure. Donc avec des partenaires comme la SNCF, bien entendu, on a pas mal de discussions avec eux. Sur les véhicules, là, je dirais qu'on est encore à une étape où beaucoup de solutions sont possibles. Comme je l'ai évoqué, dans le cas d'un véhicule complètement en autopartage, nous sommes convaincus qu'il va falloir étudier spécialement des véhicules pour qu'ils soient optimaux pour ces usages. Quand vous regardez un Vélib, ça ne ressemble pas vraiment à un autre vélo, quoi. Et comme je l'ai mentionné, il faudra que ces véhicules puissent accueillir une succession de différents occupants, différents conducteurs. Donc là, nous pensons que le principe même d'autopartage devrait amener à avoir des véhicules configurés pour ça. Et puis, il y a tout le reste des usages avec des particuliers qui peuvent tout simplement souhaiter avoir une intermodalité relativement facile pour eux, donc pouvoir garer leur véhicule à proximité d'un transport en commun, terminer leur trajet. Donc là, l'interaction restera tout à fait compatible avec des véhicules traditionnels, quoi. Donc il y a encore plusieurs options.
Eh bien, un grand merci à Rémi Bastien. Et donc demain...